Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Aux États-Unis, débat hier soir entre les candidats démocrates et républicains à la vice-présidence, Tim Kaine et Mike Pence.
En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que le président Alassane Ouattara va présenter le texte de sa réforme constitutionnelle devant l'Assemblée nationale.
En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition est ouvert à un vrai dialogue inclusif, mais ne renonce pas à de nouvelles manifestations le 19 octobre.
Au Burkina Faso, les journalistes des médias publics et du service d'information du gouvernement ont entamé une deuxième grève.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Nous commençons par le débat d'hier soir entre les candidats démocrates et républicains à la vice-présidence des États-Unis, le sénateur Tim Kaine de Virginie et le gouverneur Mike Pence de l'Indiana. C'était le seul débat prévu entre les deux hommes pendant la campagne électorale 2016, compte rendu de Jean-Roger Bion.
Le débat a porté sur des questions de politique intérieure et internationale. Ils se sont vivement opposés sur l'économie, la sécurité, l'immigration et la politique étrangère. Monsieur Pence a expliqué que le retrait des forces américaines en Irak a créé un vide dangereux qui a favorisé l'émergence de groupes État islamique. Monsieur Pence a dénoncé ce qu'il a appelé la faiblesse de Madame Clinton quand elle était secrétaire d'État et qui a plongé, selon lui, le Moyen-Orient dans la tourmente. Le gouverneur de l'Indiana a par ailleurs déclaré qu'un leadership américain fort, que va incarner Donald Trump, selon lui, empêchera des situations telles que la guerre civile en Syrie. M. Kaine a répondu que l'expérience de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État en fait la candidate la plus qualifiée pour éradiquer l'organisation djihadiste. M. Kaine a répliqué qu'à l'arrivée de Hillary Clinton au département d'État, Osama Bin Laden, cerveau de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, était encore en vie et l'Iran était en train de fabriquer une bombe atomique. Il a ajouté que Mme Clinton était à la Maison-Blanche aux côtés du président Barack Obama quand l'opération contre l'ex-leader d'Al-Qaïda a été lancée pour le liquider. D'emblée, M. Kaine a chanté les louanges de sa candidate à la présidence, Hillary Clinton, sa longue carrière au service du public, et M. Pence a fait idem contre Mme Clinton et vanté les qualités de M. Trump. La controverse sur la feuille d'impôt de M. Trump, le serveur privé de Mme Clinton, l'immigration et le nucléaire nord-coréen ont été également évoqués.
Jean-Roger Bion, Mike Pence, il faut l'ajouter, s'est prononcé aussi pour des frappes américaine contre des objectifs du régime syrien pour desserrer l'étau autour de la ville d'Alep. Si la Russie choisit d'être impliquée dans cette attaque barbare contre Alep et continue de l'être, les États-Unis devraient utiliser la force pour frapper des cibles du régime syrien, a déclaré Mike Pence. Tout comme Tim Kaine, il s'est également dit pour l'établissement de zones de sécurité pour protéger les civils.
Et pour une analyse de ce débat, Jean-Roger Bion a contacté Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
C'était un débat très intéressant, beaucoup d'arguments des deux côtés.
Alors, des deux candidats, qui vous a paru le plus pertinent?
Je pense que Pence était plus pertinent, vraiment. Il a l'air d'être plus décontracté, il parle avec plus de dignité, il a l'air d'être plus présidentiel, je crois, que Kaine, qui a tout le temps interrompu Pence. Et qui était un peu nerveux, à mon avis. Il était une espèce de chien d'attaque. Et là, il a assez bien réussi en posant des problèmes. Il a mis un peu Trump sur le côté défensif. Mais quand même, Trump a assez bien répondu.
Alors, à qui bénéficie donc ce débat?
Alors, probablement personne. Les débats vice-présidentiels ne sont pas très, très importants. Et ni l'un ni l'autre a commis une erreur grave. Ça, c'est la chose importante. Ni l'un ni l'autre a fait une gaffe, si vous voulez. Mais je dirais que probablement le gagnant était Pence parce qu'il y a plus de républicains que de démocrates qui n'ont pas déjà décidé en faveur de leur candidat. Et donc Pence a réussi peut-être à rassurer un peu plus les républicains. Je pense que ça a aidé un peu la candidature de Trump.
C'était le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. C'est ce mercredi que le président Alassane Ouattara va présenter son texte devant l'Assemblée nationale. L'opposition qui souhaitait organiser un sitting y a finalement renoncé hier soir. D'Abidjan, les précisions de Nicolas Pinault.
Oui, à l'issue d'une rencontre à huis clos avec l'opposition, le ministre ivoirien de l'Intérieur avait été clair. Compte tenu des défis sécuritaires que pose le passage du chef de l'État, le sit-in ne peut pas se tenir à cet endroit ou alors un autre jour de la semaine. L'Alliance des forces démocratiques, présidée par Pascal Affine-Guessan, avait demandé un délai de réflexion. La réponse est tombée hier soir à Abidjan. Le sit-in n'aura pas lieu. À la place, une marche sera organisée ce samedi de la place de la République à l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara prononcera ce matin un discours important devant les députés ivoiriens pour parler de la réforme de la Constitution. Le chef de l'État souhaite l'adoption d'un nouveau texte pour créer un poste de vice-président et supprimer celui de Premier ministre. Un Sénat serait aussi créé. Autre tabou qui sauterait, la limite d'âge, c'est cette possible Troisième République qui est rejetée par l'opposition ivoirienne. Nicolas Pinault, Abidjan, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition s'est déclaré hier ouvert à un vrai dialogue inclusif avec les délégués au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Mais il maintient la pression sur de nouvelles manifestations le 19 octobre. Nous reviendrons plus en détail sur le conclave du rassemblement avec Talk Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, dans la seconde partie de cette édition.
Au Burkina Faso et à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, les journalistes des médias publics et du service d'information du gouvernement ont entamé une deuxième grève. Ce débrayage de 72 heures vise à obtenir de meilleures conditions de vie et de travail, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
Pour cette deuxième grève du genre, les travailleurs des médias publics et du service d'information du gouvernement ont à nouveau déserté les bureaux et salles de rédaction pour appliquer par centaines au siège du Sidoya, le quotidien d'État. Ils entendent ainsi intensifier l'interpellation du gouvernement burkinabé sur le respect des textes votés en 2015 sous la transition politique et qui tardent à être mis en œuvre, le cas échéant, à prendre des mesures transitoires pour améliorer les conditions de vie des hommes et femmes des médias publics. Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat.
Dans tous les cas, nous restons ouverts à tout dialogue qui peut être fructueux. Fructueux, c'est quoi ? C'est des propositions concrètes par rapport à ce que demandent les travailleurs des médias. Il faut que ce soit quand même des propositions qui puissent permettre aux journalistes et techniciens, les travailleurs des médias, de pouvoir se prendre en charge, d'être des hommes assez autonomes sur le plan financier pour éviter les tentations qui peuvent salir le travail d'un homme de médias.
Les travailleurs auraient, selon le président, suivi à presque 100% ce débrayage de 72 heures qui prend fin à minuit ce soir. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, la Haute Cour a confirmé hier la validité de l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe, et ce, après plusieurs semaines de grève pour demander le départ du dirigeant. Les précisions de John Lyndon.
Selon M. Dentai Biti, avocat d'une coalition de l'opposition qui conteste l'interdiction par la police des manifestations, le recours a été rejeté par la Haute Cour. Les partis d'opposition feront donc appel auprès de la Cour suprême. Pour M. Biti, l'interdiction constitue une violation arbitraire des droits du peuple. Ces dernières semaines, les Zimbabwéens n'ont pas cessé d'exprimer leur colère contre le président Mugabe au pouvoir depuis 1980. Le mouvement de contestation agite le pays sur fond de profondes crises économiques. Robert Mugabe a averti les protestataires en disant qu'ils étaient en train de jouer un jeu dangereux. En juillet dernier, une grève d'une journée, à l'appel des syndicats et du pasteur Evan Mawarir, chef de file de la Fronde citoyenne, avait réussi à faire fermer les bureaux, les écoles et quelques services gouvernementaux. Pour tenter de contrecarrer la grogne anti-Mugabe, la police a interdit tout rassemblement dans la capitale pour un mois, jusqu'au 15 octobre.
Siri Washington examine les options diplomatiques, militaires, de renseignement et économiques possibles pour faire face à la crise dans ce pays. C'est ce qu'a indiqué hier un porte-parole du département d'État tout en soulignant la nécessité d'un règlement politique. Les patrons des agences américaines spécialisées dans la sécurité et la politique étrangère doivent se réunir aujourd'hui. L'objectif, présenter au président Obama différentes options d'action après l'abandon des pourparlers avec la Russie, pourparlers destinés à trouver une solution au conflit syrien qui a fait plus de 300 000 morts en 5 ans.
Le puissant ouragan Matthew a atteint Cuba hier après-midi et laissé au moins 7 morts en Haïti et en République dominicaine. Sur sa trajectoire destructrice, les États-Unis, où les autorités activaient état d'urgence et même ordre d'évacuation. Ces vents soufflent toujours à 220 km/h et ils se déplacent à 15 km/h. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Cameroun, 244 fermiers ont porté plainte contre une entreprise américaine qui veut planter 20 000 hectares de palmiers à huile dans le sud-ouest du pays, a indiqué hier mardi un communiqué de Greenpeace. Les paysans en conflit avec la Sustainable Oils Cameroun, filiale d'une société américaine, ont saisi le tribunal de la commune de Bondiem pour violation du droit de propriété. La première audience a été fixée au 9 novembre. Au total, 231 paysans du village de Ngouti estiment que cette société n'a pas respecté une zone tampon de 5 km pour protéger leurs propres exploitations. Greenpeace lance avec d'autres associations une pétition pour éviter le renouvellement en novembre du bail foncier provisoire accordé en novembre 2013 par le gouvernement camerounais à la société américaine. La zone forestière concernée détient une biodiversité exceptionnelle, notamment une importante population de chimpanzés et d'éléphants de forêt. La Côte d'Ivoire souhaite vendre ses parts dans la filiale du groupe agroalimentaire ivoirien Sifka. L'offre publique de vente s'y afférent débute aujourd'hui 5 octobre et sera menée par Boa Capital Securities, la banque d'affaires et d'intermédiation boursière de Bank of Africa. Elle doit rapporter 14,6 milliards de francs CFA.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Nouvelle encourageante concernant Rigobert Song.
Oui, l'ex-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song, âgé de 40 ans, victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral, est sorti de coma et se trouvait hier dans un état acceptable. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'hôpital de Yaoundé où il a été admis. De même source, un avion médicalisé à bord duquel le footballeur devait être évacué vers la France était attendu à Yaoundé avec à son bord une équipe de médecins français. Rigobert Song a été victime d'un AVC dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il se trouvait à son domicile à Yaoundé. Selon la radio d'État camerounaise, ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, il est l'actuel sélectionneur de l'équipe A du pays.
FIFA Chili, un autre match de suspension pour le stade de Santiago.
Oui, un match supplémentaire de suspension de son stade national de Santiago, mardi par la FIFA. La FIFA qui a confirmé d'autres sanctions visant plusieurs fédérations latino-américaines et européennes en raison du comportement de leurs supporters. En mai, le Chili s'était vu refuser le droit de disputer ses deux prochains matchs dans le stade de la capitale à la suite de chants homophobes lors de rencontres éliminatoires du Mondial 2018.
Tennis, suspension réduite pour Sharapova qui pourra rejouer dès avril.
Maria Sharapova a accueilli ce mardi avec soulagement la réduction de 2 ans à 15 mois de sa suspension pour dopage qui lui permettra de reprendre la compétition dès avril 2017. La blonde russe de 29 ans avait été suspendue 2 ans par la Fédération internationale de tennis le 8 juin pour avoir pris un meldonium, un médicament inscrit depuis janvier sur la liste des produits interdit. À l'issue d'une décision d'appel plusieurs fois repoussée, l'ancienne numéro 1 mondiale a finalement vu cette suspension réduite de 9 mois ce mardi par le tribunal arbitral du sport, l'instance suprême de la justice sportive.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, maintenant, nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le rassemblement des forces politiques acquises au changement était en conclave hier à Kinshasa. Il s'agit de la plateforme de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi et qui ne participe pas au dialogue. À l'issue des travaux du rassemblement, de nombreuses recommandations ont été faites, notamment l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles dans le respect de la Constitution. Reportage de Walter Q de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au-delà de la crise financière qui a plombé l'économie de la RDC, c'est la crise politique qui est sur toutes les lèvres des différents acteurs. Crise due à la non-convocation du corps électoral le 19 septembre dernier, ce qui reporte automatiquement la tenue de l'élection présidentielle au-delà du calendrier constitutionnel le 19 novembre. Après deux semaines d'intenses travaux, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a présenté des pistes de solutions pendant un conclave tenu dans les décombres du siège de l'UDPS par de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Il s'agit entre autres d'établir au cours d'un dialogue inclusif selon ses acteurs un calendrier électoral privilégiant la tenue de l'élection présidentielle. Le rassemblement recommande aussi la réforme de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Christophe Lutundula est membre du G7 et cadre du rassemblement.
Si on n'a pas organisé les élections avant le 19, il faut accepter néanmoins que le mandat du président Kabila est terminé le 19 décembre. L'article 5 de la Constitution est clair, le pouvoir émane du peuple, donc il n'y aura pas de légitimité. Dans le cadre du dialogue politique inclusif, nous devons discuter d'un régime approprié pour la circonstance, mais qui ne doit pas s'écarter de la Constitution. Et croyez-moi, il y a moyen de faire quelque chose qui soit conforme à la Constitution. Et pour le G7, nous avons des idées précises que nous allons proposer au Rassemblement pour le besoin du dialogue.
Étienne Tshisekedi, président du comité des sages du Rassemblement, a appelé le peuple congolais à la vigilance.
Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions d'une soi-disant que kabilistes ont tenues à la cité de l'Oyoua. Vous devez rester vigilant et mobilisé tant que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Vous vous rappelez, le 9 septembre 2016, nous avons donné un avertissement à M. Kabila. Le 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune. Le 19 décembre, ce sera la carte rouge, ce sera l'exclusion.
Invité, la CENCO, par la bouche de son premier secrétaire général adjoint, a recommandé aux acteurs politiques congolais à ne pas laisser pourrir la situation politique. Abbé Donatien Cholet.
La CENCO a-t-elle suspendu sa participation, notamment pour obtenir votre disponibilité au dialogue en vue d'un large consensus? Fort malheureusement, le dialogue en cours à la cité de l'OIA se tient sans la participation du rassemblement pour des raisons évidentes évoquées dans ces déclarations, notamment les préalables. La CENCO continue à faire le plaidoyer à qui de droit pour que vos exigences soient prises en compte à mesure du possible. Il y a urgence. L'heure est grave.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
De passage à New York, le président comorien Azali Assoumani a évoqué la question des migrations dans une interview accordée à Timothée de Langmaille. Il a notamment parlé du cas des Comoriens qui se rendent à l'île française de Mayotte.
On a tendance à faire une ambiguïté entre les migrants en Europe et ce que les gens appellent des migrants à Moroni, dans nos îles, alors que ce n'est pas la même chose chez nous. C'est un pays où les populations ont besoin de se déplacer. Ce n'est pas un pays continent comme d'autres pays. Ça aurait été la Centrafrique ou d'autres pays, ça ne pose pas de problème, mais c'est un pays insulaire. Donc les gens ont besoin de circuler dans leur île, mais aussi d'une île à l'autre, puisqu'on est des frères, donc on a des familles partout. Donc Le besoin de circuler, c'est un besoin normal, nécessaire. Et ce qui fait qu'avec le problème de l'administration de l'île de Mayotte pour la France, on a tendance à confondre cette circulation avec l'immigration.
Et justement, dans le cas de Mayotte, au moment de votre élection, il y avait cette affaire des ressortissants comoriens à Mayotte qui étaient victimes de violences là-bas. Comment ce problème s'est-il résolu ?
Justement, ça c'est la conséquence d'abord de cette indépendance inachevée. C'est pourquoi, encore une fois, on a fait appel à l'ONU pour nous appuyer, aller dans un sens de dialogue avec la France pour arriver en situation normale. Donc il y a cet aspect-là et effectivement le fait que déjà les habitants de Mahoré ont compris, on l'a fait comprendre que nous on n'est pas français et qu'ils sont français, donc ils ont tendance à vouloir refouler les restants des trois îles. Et c'est ce problème-là que j'ai voulu signifier que ce n'est pas de l'immigration. C'est des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Malheureusement, cette île de Mayotte qui est restée sous l'administration française fait que, et maintenant, avec son appel, malheureusement, le visa Balladur, qui nous a imposé un visa depuis 1994, fait que pour aller à Mayotte, il faut un visa. Donc, le visa, on l'a pas, même si on le demande. Bon, il y a d'autres qui préfèrent prendre ce qu'on appelle chez nous les kossa-kossa, c'est-à-dire les pirogues, hein, pour aller à Mayotte, au péril de leur vie. Hein. Effectivement, aussi... La PAF mahoraise ne facilite pas la tâche. Et là, c'est ce problème que j'ai voulu évoquer. Donc, le problème de l'immigration et le problème de Mayotte. Et puis, pour terminer, c'est que les migrants en Europe, effectivement, c'est des gens qui se déplacent parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays. L'insécurité, la guerre et tout ça, ils se déplacent. Pas par plaisir qu'ils se déplacent. Donc, on a intérêt à résoudre le problème un peu en amont, hein, pour éviter à ce que ces gens-là se déplacent.
Le président comorien Azali Assoumani.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Afrique a-t-elle connu des progrès depuis 10 ans en matière de gouvernance globale ? La Fondation Mo Ibrahim répond oui. Amélioration notamment au niveau du développement humain, des droits de l'homme, du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Mais les Africains sont moins en sécurité qu'il y a une décennie, d'après un rapport de la Fondation. Y a-t-il eu effectivement des progrès dans votre pays ? Votre quotidien s'est-il ainsi amélioré ? Ou au contraire, les questions de sécurité ont-elles pris le dessus sur de tels progrès ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
À Johannesburg, des étudiants de certaines universités réclament une éducation gratuite pour tous. Dans un mouvement national de contestation, cela a provoqué de nouveaux heurts avec la police qui a usé à Johannesburg de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser les étudiants. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé une mise en garde à ceux qui commettent de graves infractions sur les campus. Eric Manirakiza a joint Stéphane Martin de l'Université de Johannesburg.
Durant la semaine dernière, l'université a fait voter les étudiants et les membres du staff. Et la majeure partie des étudiants avaient voté pour la réouverture de l'université et des activités scolaires. Beaucoup d'étudiants ont bien envie de continuer les cours, mais il y a une autre poignée d'étudiants qui ne sont pas pour le fait que les cours continuent tant que les décisions n'ont pas été prises au niveau de l'éducation gratuite qu'ils demandent.
Et que répond l'autorité ?
Jusqu'à présent, ils ne leur ont pas donné une réponse, la réponse qu'ils attendent. Ils ont plutôt dit qu'ils devaient travailler sur l'augmentation de la pension universitaire parce qu'elle augmente généralement de 10% chaque année. Donc les autorités avaient dit qu'ils devaient annuler l'augmentation. Mais c'est arrivé au point où les étudiants ne veulent pas entendre parler d'augmentation ou de pension à payer. Ils exigent que l'éducation doit être donnée gratuitement.
Est-ce que c'est un mouvement qui risque de toucher d'autres universités ?
Oui, c'est possible. Ça peut toucher d'autres universités parce que les actifs majeurs sont vraiment en communication et jusqu'ici, ils sont en train de former un bloc solide dans toutes ces universités majeures. C'est juste que le nombre des étudiants est encore un tout petit peu limité. De mon point de vue, c'est parce que chaque étudiant regarde son intérêt. Par exemple, les étudiants qui sont en voie de finition ne veulent pas faire partie de cela parce que ça va leur ajouter une année supplémentaire si les activités universitaires sont quasiment interrompues. Donc, ils ne pourront pas terminer l'année scolaire. Et les étudiants qui sont en tout début du cycle, ils veulent vraiment cela parce que ça leur permettra d'y aller tout au cours et à terme de leur cycle sans pour autant payer de pension universitaire. Donc, il y a tout cela qui entre en jeu et qui, je dois dire, n'est pas en train de solidifier l'harmonie au niveau des étudiants. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces étudiants souhaiteraient avoir l'université gratuite.
Stéphane Martin de l'Université de Johannesburg. Le Togo peine à assurer une meilleure couverture sanitaire. Le pays dispose de moins de 2000 centres de santé. En outre, les hôpitaux publics n'ont pas bonne réputation. De même que le plus grand établissement du pays, le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, qui est donc le plus grand établissement du pays. Dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, la perception des Togolais.
Le Togo compte 3 centres hospitaliers universitaires CHU, dont 2 à Lomé et 1 à Kara. Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé-Tokoin, communément appelé CHU Tokoin, est celui qui est le mieux nanti, mais ce centre sanitaire n'a pas la cote auprès de la population.
Service d'urgence, non quoi me vais de Côte d'Ivoire.
Au service d'urgence, lorsque le patient arrive, le personnel soignant prend tout son temps pour la prise en charge. Nous savons qu'ils sont débordés, mais ils peuvent faire plus d'efforts.
Il faut les supplier parfois même, glisser quelque chose avant qu'ils n'interviennent dans ton côté pour s'occuper de toi.
Tokoin, il n'y a pas d'accueil. L'hôpital même, la propriété, il y a la pédiatrie. Si tu vas là-bas, tu ne vas pas respirer. 4 enfants, 5 enfants sur le même lit.
Une femme, par exemple, qui vient pour l'accouchement, la femme souffre. La sage-femme pour accueillir la femme, on n'en trouve pas.
L'une des accusations portées par les patients contre les centres de santé au Togo est le détournement des médicaments.
Moi, j'ai été victime, mais après l'opération, l'infirmier vient, il dit que le produit est fini, on a déjà utilisé. Je dépense comme ça. Mais après, là, j'ai appris que la maternité, il y a ces produits-là que normalement, ils devaient utiliser gratuitement. Mais ils vendent ça.
Je dis bien, j'ai été victime. On me prescrit un produit que je cherche ça dans la pharmacie de l'hôpital. Je n'en trouve pas. Qu'allons-nous faire? Quand on amène les produits, qu'on voit que c'est important, ils détournent ça.
Le plateau technique fait défaut, ce qui pousse certains Togolais à aller se faire soigner au Ghana voisin. Mais avec la barrière linguistique et monétaire, c'est un parcours de combattant. Pour le traitement de certains cas de cancer, le Togo ne dispose pas encore de structures de prise en charge adéquates, ce que déplore Lisa Nujor.
Pour le problème du cancer, là, ils n'ont qu'à créer un centre de radiothérapie. Pour les malades. Au lieu que nos grands-sœurs, les malades, aillent au Ghana, au Nigeria, pour utiliser l'argent, l'État peut construire un centre de radiothérapie ou bien quelque chose au Togo.
Selon une étude réalisée en 2014, le Togo dispose d'un médecin pour 16 690 habitants, d'un infirmier d'État pour 4 746 habitants et d'une sage-femme d'État pour 15 691 habitants. Le document intitulé « Principaux indicateurs de santé 2014 » issu de cette étude indique qu'il y a 2 ans, le Togo disposait de 1286 établissements de soins pour répondre aux besoins en soins curatifs, préventifs et promotionnels. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.